Vivre heureux, vivons Côtier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce samedi de printemps pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Côtier. Alors, nous avons l'insigne honneur et la joie de recevoir un romancier vraiment de grand talent pour vous sur Vivons Côtier, qui vient de commettre un nouveau livre, Le Manoir de Carbrock, aux éditions Baudelaire. Rien que cela, chers amis, nous avons avec nous Léo Questen. Bonjour Léo Questen.
Bonjour.
Et évidemment, pour m'accompagner, ma chroniqueuse historique qui va poser aussi toutes les questions que vous avez envie de, qu'elle lui pose, Irène Cazenave. Bonjour Irène.
Bonjour.
Alors, ce n'est pas une émission interactive aujourd'hui. On va faire vraiment une émission uniquement centrée sur le roman de Léo. Il le mérite. On a beaucoup de questions à lui poser. Évidemment, sans trop déflorer, restez à l'écoute. Ça va être passionnant. Léo Questen, je vous redis bonjour. Si vous deviez vous présenter, Léo, dire qui vous êtes pour les auditeurs de Vivons Côtier, vous diriez quoi ?
C'est compliqué. J'ai bientôt 78 ans et il me faudrait plusieurs émissions pour répondre.
Vous reviendrez.
Voilà. Non, résumé, je peux dire que j'ai eu une belle vie déjà. Je peux dire que j'ai fait tout ce que j'ai aimé. J'ai été prof à l'université. J'ai adoré ça. Et puis, depuis toujours, déjà quand j'étais étudiant, j'ai adoré les médias. Mmh. Et j'en ai fait beaucoup, notamment en Allemagne. Et j'ai adoré ça.
Et puis, vous étiez où en Allemagne, Léo, si je peux me permettre? Dans quel Länder vous étiez où?
Alors, dans deux. D'abord, j'ai commencé à Saarbrück. À la frontière française, parce que mon épouse, qui ne parlait pas allemand, m'avait dit « Tu comprends, si jamais je dois accoucher, j'aimerais bien accoucher en français. Ça nous permettra tout de suite d'aller à Forbach ou à Sarreguemines, et je ne veux pas accoucher en allemand. » Je lui ai dit « Ma chérie, dans ce cas-là, on ne va pas aller à Hambourg, ce sera un peu loin, on va aller à Saarbrück. »
Et vous savez ce que dit là-dessus Danny Cohn-Bendit par rapport à la langue et au pays? Il raconte une anecdote très drôle. Il dit « Mais pourquoi vous êtes parti vivre en Allemagne ?» Il dit « Moi, je vis là où je suis amoureux. »
C'est très joli. Je l'ai connu, entre parenthèses.
Vous l'avez connu. Et, oui, et c'est pour ça qu'il était devenu, à l'époque où il était étudiant à Nanterre, en mai 68 alors.
Oui, il était rouquin.
Ah, ça, sacrément.
J'étais rouquin.
Oui.
Et on nous confondait, hélas.
Ah, pourquoi hélas? C'est quelqu'un d'atypique, original. Il est sympa.
Oui, mais à l'époque, on n'était pas forcément.
Ah, vous n'étiez pas du même bord?
Je dirais que moi, j'étais plutôt journaliste en train d'écouter, de voir ce qui se passait. Et lui, il était activiste. Et puis, parfois, il traitait les profs d'une manière que je n'ai pas pu tolérer. Je me souviens d'un de mes profs qui s'appelait Grappin.
Ouais.
Il a fait le dictionnaire français-allemand, allemand-français de l'époque. Et puis, un jour, en amphi, en AG, Cohn-Bendit a pris la poubelle. Il lui a versé sur la tête avec toutes les ordures. Et il l'a traité de nazi. Et quand on sait que M. Grappin était résistant, disons que là, je n'ai pas pu suivre M.
Cohn-Bendit. Ça je peux comprendre, ouais.
Ceci dit, il était jeune, j'étais jeune, puis c'était cette force de la révolution.
Mais vous avez fait quand même cette époque où c'était la fin du gaullisme, c'était la France à la papa, ça s'essoufflait. Deux mois avant, on disait la France s'ennuie, vous vous rappelez ce fameux article. Donc finalement, vous avez eu 18-20 ans au bon moment.
Voilà,
bon moment, Léo, franchement.
Ah oui. Je ne regrette pas. Mais tout ça pour dire que j'étais quelqu'un qui observait. Je suis allé voir certaines manifs, puisqu'à l'époque, la radio a joué un rôle essentiel dans les événements de 68. Et tout le monde était avec son transistor dans les rues pour entendre où était la police. Et puis moi, je voulais voir. Et comme déjà, je voyais pas très très bien. Aujourd'hui, je suis presque aveugle.
Mais déjà, vous aviez des problèmes de cécité à ce moment-là. Alors, on peut le dire à nos auditeurs. Voilà, vous l'avez dit vous-même. Je me le serais pas permis. Voilà, par correction. Donc, chers amis auditeurs, Léo Questen a perdu la vue. Il y a combien d'années à peu près? Quasiment complètement.
Oh, quasiment complètement. À l'âge de 63 ans, j'en ai 78.
Oui. Et alors, il était avec un magnifique labrador. J'adore. C'est son chien. Comment s'appelle-t-il?
Phoenix.
Phoenix est avec nous. Puis Phoenix est au pied de Léo. Je suppose qu'il est vos yeux maintenant. Il est votre âme. Il est votre compagnon. Enfin, un chien comme ça.
Mon prolongement.
C'est votre prolongement. Ouais. Oui. C'est plus que tout. C'est très fort, hein, la relation à son chien.
J'ai presque pas de mots, finalement. Donc voilà, un long parcours. J'ai fait de la télévision en Allemagne, j'ai fait de la radio en France. Aujourd'hui, alors, j'ai le plaisir d'être là.
Chers amis auditeurs, pour vous situer, Léo, évidemment, Léo est un grand homme de radio. Par son humilité, ne le dit pas, mais n'est-ce pas, Irène? On peut dire qu'il a travaillé où, Léo? Racontez aux auditeurs.
Oui, oui, oui. Effectivement, beaucoup d'humilité, parce qu'il a travaillé sur, alors si je me souviens bien, Affaires Sensibles sur France Inter.
Rien que ça. Nuit Noire aussi.
Oui, donc.
Je crois qu'il a fait des scénarios passionnants. Donc vous le connaissez très, très bien sans le savoir. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un métier un peu dans l'ombre, qui d'ailleurs un peu se met à gueuler à Hollywood. On peut comprendre pourquoi, parce que c'est des métiers, les métiers de scénaristes. Sans scénariste, il n'y a rien, n'est-ce pas, Irène? Et les scénaristes sont sous-payés par rapport à ce qu'ils amènent, notamment et en France et à Hollywood aussi. Qu'en pensez-vous, Irène?
Mais complètement, c'est des métiers effectivement qui sont dans l'ombre, mais qui sont, pour le coup, je vais reprendre un terme, essentiels.
Essentiels. Oui. Ah, vous avez aimé faire ça, scénariste, Léo?
J'adore ça. Et puis d'ailleurs, si quelqu'un m'écoute, un producteur, qui n'hésite pas à m'appeler, j'adore faire des dialogues. Je pense que peut-être, comment je peux dire, c'est là que je suis le moins mauvais dans les dialogues. J'adore faire ça. Et bon, maintenant je peux plus lire, mais à l'époque, quand j'écrivais pour France Inter, je lisais tous les rôles, j'étais tous les personnages à la fois.
Ah, c'est génial. On va passer une page musicale et on va commencer à rentrer et à voir un petit peu le manoir de Kerbrock. Restez avec nous, ça va être passionnant.
Des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère, dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cover. Je voudrais toujours te plaire, dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs. Embrasser les yeux ouverts, dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut
l'immense qui nous manque beaucoup avec son rire extraordinaire, Henri Salvador, son jardin d'hiver. Vous êtes toujours bien sur Dynamique Radio avec Irène Cazenave, avec votre serviteur, évidemment notre invité central. Nous avons la chance d'avoir Léo Kösten avec nous. Alors Léo, le manoir de Kerbrock. D'abord, le titre intrigue tout de suite parce que vraiment c'est un nom qui fait tellement breton. Vous avez des liens avec cette belle région qu'est la Bretagne? Racontez-nous ça un peu.
Tout de suite la bonne question, hein.
On essaye.
Ouais. Non, mais oui, j'ai des liens. En fait, mon épouse avait, enfin ses parents avaient une maison dans une baie qui est au bord d'une baie qui est absolument magnifique, qui est à côté de Port-Blanc.
Ah oui.
Magnifique. Ensuite, avec mon épouse, après le décès de ses parents, eh ben, on a agrandi cette maison qui est devenue la maison familiale. Donc oui, j'ai des accointances avec cette belle région. Finalement, avec le changement climatique qui va devenir tellement prisé.
Ça va être là-bas qu'il se fera bon vivre.
Voilà.
C'est clair, ça fera... Irène, tout de suite, il y a une atmosphère un peu care, veut dire maison, n'est-ce pas ? Moi qui ai 50% breton, qui suis 50% breton aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà du titre, Irène ? Le manoir ?
Il y a ce côté mystérieux, forcément, dans le manoir. Il y a les secrets de famille. Je commence déjà à dévoiler un petit peu le roman. Mais il y a cette question vraiment de la famille et des secrets de famille qui sont au cœur de ce roman.
Léo.
Oui, c'est vrai. Alors, déjà, j'avais demandé à l'éditeur une couverture qui permettent de mettre en scène cet imaginaire. Finalement, la couverture que je n'ai pas vue, mais je l'ai décrite moi-même pour que le dessinateur puisse faire quelque chose de mystérieux. Puis la Bretagne a quelque chose de mystérieux en soi aussi. La pierre de granit, qui est quand même la référence de la pierre bretonne, eh bien, elle a plein de couleurs, contrairement à ce qu'on croit. La pierre de granit, elle est grise. Quand il pleut, elle est noire, luisante, méchante. On en a peur.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Mais c'est vrai, vous avez raison, Léo Questen, que la Bretagne, ah ben en plus avec les forêts, sa mythologie et tout ça, a un côté sauvage qui peut faire peur par moments, ce côté sauvage. Hein. Alors cette famille, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, chers amis auditeurs. Effectivement, vous le disiez, Irène, il y a un côté saga familial dans ce roman qu'on a tous adoré, d'ailleurs, hein, vraiment, à Dynamique Radio. Parlez-nous tout de suite, immédiatement, de Héloïse de Kerembrun. Qui est Héloïse de Kerembrun ?
Héloïse de Kerembrun, c'est une femme de 40-45 ans, une bonne bourgeoise, comment je pourrais dire, j'habite Versailles.
La bonne Versaillaise.
La bonne Versaillaise qui ne travaille pas, qui est dans le moule qui suit son mari, c'est le mari qui fait la loi si je puis dire. C'est lui qui apporte l'argent, c'est lui qui travaille, c'est lui qui sait. Et la femme, au fond, elle se tait, puis elle doit être reconnaissante. Et puis au fond, si jamais elle se plaint, parce qu'il y a beaucoup de boulot dans une maison quand on a en plus 3 enfants, elle a tort de se plaindre, puisqu'elle est au service de son homme.
Son homme qui est Foucault de Kerembrun. Homme, businessman, patron de plusieurs usines, voilà, ça va pour lui, socialement en tout cas.
Ça va pour lui, socialement, et puis sa femme qui est jolie, finalement, à son bras, c'est le diamant qu'il peut montrer quand il sort dans le grand monde versaillais, ou dans le grand monde de la bourgeoisie, ou dans le grand monde de la noblesse, qui existe quand même tant à Versailles. Donc, c'est une faire-valoir qui, au bout d'un moment, commence quand même à s'agacer un peu, à trouver qu'il exagère, et puis surtout, à ne plus supporter petit à petit les violences dont elle est victime.
Alors,
son mari est violent.
Irène, le mari de Héloïse est violent, n'est-ce pas, Irène ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous, alors, en tant qu'hypnothérapeute ?
Oui, alors il y a vraiment au départ la violence qu'on découvre d'ailleurs au départ par le prisme des enfants. Donc deux adolescents qui sont qui expriment, j'ai envie de dire, la violence que cette femme n'ose pas exprimer elle-même. Donc on commence tout de suite avec eux. Et on suit sa rébellion progressive. Comment elle
presque son émancipation. D'ailleurs, je crois que Léo Questen emploie le terme à un moment donné.
C'est pas presque, c'est ouais. Complètement son émancipation.
Ouais.
Comment elle se réapproprie sa vie et son destin. Et en ça, ce roman, c'est un roman aussi de résilience. Alors, au départ, il y a effectivement ce schéma familial qui a l'air... jolie à l'extérieur, si je puis dire, et puis où on se rend compte de la souffrance de cette femme. Et tout de suite, on est en empathie avec cette femme.
Léo Questen.
Oui, alors ce qui est rigolo, c'est que ma fille a lu ce roman. Elle me dit « Papa, faut absolument que tu écrives le tome 2 », puisqu'elle a pris fait et cause pour cette femme. Bon, c'est normal, c'est ma fille qui est une femme aussi. Hein. Et c'est vrai que petit à petit, elle se révolte. Le mari est violent. Cette violence conjugale qui existe dans tous les milieux, dans tous les milieux.
C'est très juste.
Hein, faut pas croire que c'est réservé à un seul milieu, non, pas du tout. C'est dans tous les milieux. Et en fait, c'est quoi la violence? C'est une gifle au début. Et alors, un certain nombre de femmes se disent « Oh, c'est une gifle, c'est pas grave ». Moi, je trouve que c'est grave.
Bien sûr.
On ne doit jamais laisser s'installer la violence dans un couple, ne serait-ce qu'une petite gifle au début du mariage quand on est follement amoureux. Non, la petite gifle qu'on laisse passer se transforme plus tard en coup de poing.
C'est très juste, on passe une page musicale, on va continuer à voir la suite de la saga du manoir de Kerbrock. Restez avec nous, c'est passionnant.
Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense, au début de sa vie, que ce sera jamais, jamais, jamais fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Aussitôt que l'on rêve, c'est déjà qu'on est deux. Aussitôt qu'on en crève, c'est qu'on est amoureux. C'est déjà que l'on pense, avec mélancolie, que ce sera bientôt, bientôt, bientôt fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie.
Eh oui, il faut aimer la vie, aimer la vie. Vous savez, je sais qu'une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Magnifique Serge Lama, magnifique chanson sur aimer la vie, être amoureux. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. Je vous aide toujours à Christophe Médici dans Pour vivre heureux, vivant coaché avec Irène Cazenave et surtout et avant tout notre auteur qui est notre invité principal, Léo Questen, pour son roman Le Manoir de Kerbrock aux éditions Baudelaire. On en était au début du roman, n'est-ce pas Léo? Et à un moment donné, alors moi j'ai bien aimé parce que là il y a une discussion autour d'un roman qui évidemment avait cartonné puisqu'il avait été, je crois d'ailleurs, pris Goncourt. C'est Les Bienveillantes, hein. Pourquoi ils aiment autant? Pourquoi qu'est-ce se passe-t-il autour de ce roman Les Bienveillantes?
Alors, en fait, Héloïse de Kerembrun, qui a l'air d'une potiche, finalement, enfin, qui se sent comme une potiche, mais qui l'est réellement dans sa vie de tous les jours, puisqu'elle suit son homme, au fond, sans rien dire. Mais c'est une grande lectrice. Elle aime lire, elle a ses idées. Alors moi, je pense que quand on lit un roman, c'est de la même chose que quand on va voir une exposition de peinture. Il y a des gens qui vont voir une exposition de peinture parce qu'ils se sont dit « je vais aller au musée », etc. Et puis ils n'osent rien dire sur le tableau. Mais ils ont tort. on a le droit d'avoir son ressenti par rapport à un tableau qui n'est pas forcément un ressenti académique.
Absolument.
Bon, eh ben elle lit, elle se cultive, elle adore la vie, le théâtre, tout ça. Et elle a lu Les Bienveillantes. Et elle a une opinion sur ce livre terrible.
Terrible,
qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Le héros est un nazi d'opportunisme. Est-ce qu'on en retrouverait comme ça dans une autre guerre de ces gens opportunistes ? Oh, j'en suis convaincu que oui. Bon, eh bien, elle a son opinion sur Les Bienveillantes. Et puis, il y a son beau-père qui est là et sa belle-mère, donc les parents de son mari. Et le mari, c'est un professeur agrégé de mathématiques, un grand lecteur, un homme cultivé comme ce n'est pas permis. Il écoute sa belle-fille, puis tout d'un coup, d'un ton tranchant, « Mais non, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas comme ça qu'il faut interpréter ce roman. » Et ça se termine en dispute familiale, carrément. Il lui coupe la parole. Je me souviens, quand j'étais prof moi-même à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, moi je défendais le film de Spielberg, La Liste de Schindler.
Ah oui, oui, oui.
Je me suis fait insulter quasiment par des collègues professeurs d'histoire, aujourd'hui très renommés, et ces collègues m'ont dit « Mais non, Léo, pas du tout !» Il faut apprécier Shoah.
Bon. Parce que l'autre... Irène, qu'est-ce que vous avez à dire par cette dispute familiale avec une dévalorisation de la femme, un complexe de supériorité ? Qu'est-ce que ça vous inspire quoi en tant qu'hypnothérapeute ?
Il y a vraiment cette question de famille dysfonctionnelle, de ce pouvoir patriarcal avec le patriarche, sans trop dévoiler le livre. C'est aussi un moment important parce que son mari ne prend pas fait et cause pour sa femme, mais il prend fait et cause pour ses parents. Enfin, il reste du côté des parents. Ce qui le positionne pas vraiment en homme, mais plutôt en enfant. Donc, il y a toutes ces questions-là où finalement, autour d'un livre, autour de deux opinions divergentes, il y a une espèce de toile d'araignée qui se tisse de familles dysfonctionnelles et pour le coup le seul qui a un véritable choix, puisque visiblement il n'y a pas tellement de choix de compréhension d'un livre, c'est le mari, et c'est le mari qui choisit ses parents plutôt que sa femme.
Léo Questen.
Oui, c'est vrai, ça. J'aurais pas pu mieux dire. Le mari est du côté de ses parents. Il est encore effectivement le fiston adoré qui a fait une prépa, le fiston très intelligent, forcément plus intelligent que sa femme. Oui, et elle se retrouve seule, sans compter que ses deux enfants, elle a une fille et un garçon, sont en pleine adolescence. Et souvent, les adolescents renvoient à leurs parents des propos, je l'ai vécu, un peu vifs. Hein, et donc, elle se trouve franchement isolée dans cette famille. Assiste à ce repas un confident, qui est un de ses voisins, qui se prénomme Éloi, et qui est peut-être son seul allié. Sauf que Éloi est tellement, il est effaré par ce qui se passe dans cette famille. Il essaye de venir au secours de son amie, Héloïse, mais c'est bien le seul, et c'est une personne extérieure qui vient aider Héloïse dans cette mouise. Et finalement, Héloïse, qui est une bonne ménagère, pourquoi pas son mari, entre parenthèses, mais bon, qui est une bonne ménagère, qui fait la cuisine à ravir, qui s'est appliquée pour recevoir ses beaux-parents le mieux du monde, personne ne lui fait le moindre compliment sur sa cuisine, comme s'il était normal et entendu qu'elle fasse la cuisine pour tout le monde quand son mari a des invités.
Et c'est souvent daté, ça, parce que je me rappelle que nos pères et nos mères qui étaient nés dans les années 30 ou 40, fait que la femme fasse à manger, le père revenait, et quand il y avait les invités, la mère, on la voyait quasiment jamais, mais elle s'occupait avec les gens d'amener à manger, n'est-ce pas, hein, Irène,
c'est et vraiment... Et pourtant, ça reste...
Les années 70-80, c'était
mais
ça.
Mais ça reste hein. Actuel. Ça reste actuel. Et dans certains milieux, et un petit peu dans tous les milieux, parce qu'on a tous et tout était élevé de cette façon-là. Donc il y a encore ces questions de charge mentale, où même si les hommes participent de plus en plus, aide, si je peux utiliser ce terme,
parce que là, quand
on
est, mais
bien évidemment, donc c'est toujours là. Là, c'est là de façon peut-être plus marquée, parce que c'est plus marqué dans certains milieux et c'est plus romanesque, si je peux me permettre. Mais c'est là dans beaucoup de familles.
On va passer une page musicale, restez avec nous, on va continuer à voir quelques passages formidables de ce roman qu'on a adoré. A tout de suite, restez là avec nous sur Vivons Coaché.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant, que ces doux appellas, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, oh, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages, pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages.
Et la très grande Céline Dion que nous attendons tous. J'espère qu'elle se porte mieux. J'espère qu'elle va enfin pouvoir reprendre ses concerts. Vous êtes toujours avec Christophe Médici sur Pour Vivre Heureux, Vivons Coaché. Oui, c'est une émission exceptionnelle. Vous n'appelez pas aujourd'hui, on ne vous coache pas. Nous avons un romancier, on a plutôt décidé, n'est-ce pas Irène, hein, de faire une émission uniquement autour de son roman.
Voilà, qui est passionnant.
Qui est passionnant. Et puis de toute façon, il y a quelque chose de psy. Vous prenez toujours l'angle psy, Irène, hein, parce que bon, voilà, c'est des jeux entre les personnages d'une famille, donc...
Oui, alors donc je reprends le titre du livre, le manoir de Kerbrock. Il y a vraiment cette question où ça se joue dans une famille autour de cette femme Héloïse qui si je puis dire, infantilisée dans sa famille, où c'est une femme au foyer et qui, à un moment, se rend compte que la violence qu'elle subit de son mari, la domination de son mari et de la famille de son mari, y a un moment où il y a à la fois un trop et puis une prise de conscience, grâce à son ami et confident Éloi, qu'elle a envie et qu'elle peut faire autre chose.
On peut vous demander, Léo, moi ça m'a intéressé tout à la lecture de ce roman, quels sont les romanciers que vous admirez, qui pourraient vous avoir inspiré, enfin, si vous avez deux, trois noms à nous donner de romanciers. Ça peut être de grands Allemands, hein. Moi je sais que j'adore Thomas Mann, j'adore Hermann Hesse, pour moi c'est un génie, Narcisse et Goldmund, pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu, vous devez aimer aussi Hermann Hesse. Mais...
J'aime beaucoup, alors non, c'est pas eux qui m'ont inspiré. Je dirais que ce qui m'aide à écrire, en dehors évidemment de l'imagination indispensable et puis du vécu, ce qui m'aide à écrire aussi, c'est un petit peu tout ce que j'ai pu faire pour France Inter, qui me donne une certaine facilité, je dirais, dans les dialogues, quoi. Mais j'adore toujours Stefan Zweig, même le maître de la nouvelle. Et je me souviens toujours que j'ai lu une biographie le concernant, et il était l'ennemi du mot de trop.
Oui.
Il écrivait peut-être des romans, et puis il barrait tellement de choses qu'il en arrivait vraiment à une nouvelle, où chaque mot était important. J'aime certains textes de Nietzsche, notamment quand il fait l'éloge de la musique française de Carmen de Bizet plutôt que de Wagner. Tout ça parce qu'il s'est fâché avec Wagner. Bon.
Mais alors, vraiment, c'est Zweig, Stefan Zweig, qui vous inspirait beaucoup ces dernières années.
Oui, énormément. Ouais. J'ai écrit une pièce radiophonique pour France Inter que j'avais intitulée « Mourir à Petropolis ».
Ah oui.
Puisque Stefan Zweig et sa compagne de l'époque s'étaient suicidés. Et moi... Pour reprendre ce que dit Irène, le parti psy, moi, je reste persuadé, contrairement à bien des auteurs qui connaissent Stefan Zweig, je reste persuadé que le suicide de Stefan Zweig, à la limite comme celui de Romain Gary, était écrit d'avance.
Qu'est-ce que vous entendez par là qu'il était écrit d'avance?
Eh bien, je veux dire que Stefan Zweig était un grand dépressif.
Oui. Ah oui, alors là, c'est son point commun, entre autres avec Romain Gary, qui en était un aussi. Oui,
voilà.
Oui, oui, oui.
Alors, tout le monde dit, enfin, certains des auteurs, des biographes disent, il s'est suicidé parce que les Allemands ont débarqué en Amérique du Sud.
C'est une théorie, mais évidemment, il n'y a pas que ça pour suicider.
Non,
on est
non.
Bien d'accord.
C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la dépression.
Oui, je crois. C'est
voilà.
Très juste. Ouais.
Et Romain Gary, finalement, j'ai fait... une pièce de théâtre qui est une commande d'un ami comédien qui s'appelle Yanis Baraban, qui m'a dit: j'adore Romain Gary, écris-moi une pièce que je jouerai plus tard. Et j'ai écrit une pièce qui s'intitule Romain Gary et le petit lézard blanc. Et j'ai beaucoup lu sur Romain Gary. Je pars du principe qu'il a eu dans sa vie plein de femmes, bien sûr, mais deux amours seulement. Sa maman, oui. Sa maman.
Alors, sa maman, c'est plus qu'un amour. C'est un doux euphémisme. Hein. C'était...
c'est...
D'ailleurs, bon. Je trouve que dans le film, ils ont pris Charlotte Gainsbourg. J'aurais
c'était
pas pris Charlotte
non.
Gainsbourg pour
je
jouer la mère.
Pas.
Ah, vous êtes
non.
d'accord. J'aurais
ah ouais.
vraiment pas pris Charlotte non. Gainsbourg pour jouer la mère de Romain Gary.
Surtout pas.
Erreur de casting monumentale.
Elle est bien.
Moi, j'ai pas un amour sans bande pour Charlotte Gainsbourg. Moi,
je la trouve bien, mais pas du tout là-dedans.
Elle n'était pas faite pour ce rôle.
Non.
Ça n'a rien à voir, à mon avis, la mère de Romain Gary.
C'est une excellente comédienne.
Oui, mais la mère de Romain Gary doit être beaucoup plus grandiose que ça. D'ailleurs, on sent qu'elle se force. Elle se force. Qu'est-ce que vous en pensez, Irène? C'est vrai qu'à un moment donné, l'écriture de Léo est une écriture qui rejoint un peu. Alors. On va vous faire rougir, mais il n'y a pas des passages un peu à la Romain Gary, un peu. On sent que vous aimez Romain Gary, parce que Romain Gary, comme ça, dans La promesse de l'aube ou d'autres, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, a une façon d'écrire. Qu'est-ce que vous avez.
Moi, j'étais sur Zweig encore avec 24 heures dans la vie d'une femme.
24 heures dans la vie d'une femme.
Il y a vraiment. On est avec Héloïse et on suit cette reconquête du désir de cette femme. Donc on sent effectivement ces influences-là aussi de Romain Gary d'aller chercher jusqu'au bout.
Ouais. C'est des jusqu'au boutistes, ces gens-là.
Voilà. Alors, juste pour terminer sur Romain Gary, son deuxième amour, tout de même, c'était Jean Seberg, l'actrice.
Qui était bien frappée. Hein.
Oh, oui. Mais les deux en passant, ensemble, c'était bah oui, bah, un couple.
Qui se ressemble, ça sent.
Mais wow, c'était quand même un couple fun. Quand, comment dire, ils ont vécu. Ils ont vécu la vie à 200%. Bon, et... je pense qu'une...
Oui, mais attends, Léo, je me permets de vous couper quand même, parce que je suis formateur psychosociologue et je forme à longueur d'année. On peut dire que cet amour fusionnel qu'il avait eu à l'origine avec sa mère, Romain Gary, lui donnait une appétence et une attirance pour les femmes borderline quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que Jean Seberg, au quotidien, ça devait être la mère démontée avec des creux de 6 mètres de haut. Quoi. Quand tu vis une histoire d'amour avec une femme comme ça, je veux dire, il ne faut pas t'attendre à de l'équilibre. On remarque qu'il ne l'était pas non plus.
Voilà. Il ne l'était pas, mais je pense
que... C'est deux qui se tiraient vers le bas, quoi.
Oui,
mais elle était lisière folie, je veux dire.
Complètement.
Était fracassée.
Fracassée et elle-même, quelque part, comment je peux dire, désespérée, finalement.
C'est ça. De toute façon, rappelez-vous ce que dit Michel Foucault dans l'histoire de la folie à l'âge classique, c'est une définition de la folie. Il a cette expression, Irène va nous faire un retour de clinicienne. La folie, chers amis auditeurs, c'est le déjà-là, avec un accent sur le A, de la mort. Il y a quelque chose de mort chez ces gens-là.
Quelque chose effectivement de mortifère, et on parlait de désespoir, où le désespoir de l'un nourrit le désespoir de l'autre. Et il y a quelque chose qui est effectivement mortifère. Et ça devient une relation qui aurait pu être sublime, elle devient extrêmement toxique.
Elle devient toxique jusqu'à la mort.
Puisqu'il
y a la mort qui est là, hein, Léo, à un moment donné, ils vont vers la mort. Alors venons-en quand même à certains personnages importants, en plus que de celle qu'on a mis le focus sur elle, parce que c'est quand même une des héroïnes, si ce n'est le pivot central, hein, héroïne du roman de Léo Questen. Mais il y a le fils, à un moment donné, on déflore pas grand-chose, on veut vraiment que vous lisiez le livre, et donc on vous dira évidemment pas les moments très importants du livre. Courez acheter ce livre. Il est évident qu'il ne faut pas qu'on raconte tout. Il se passe tellement de choses, n'est-ce pas, Irène, hein. Mais on vous montre qu'il s'y passe des choses. À un moment donné, quand même, on peut se permettre, Léo. Le fils, Théo, fait son coming out.
Oui.
Hein, il fait son coming out. Il explique à des parents très bourgeois, versaillais, on pourrait dire très catho, enfin bref, qu'il est homosexuel. Bon. Alors d'abord, pourquoi fait-il cela? Pourquoi au fin, au moment où il décide de faire ça? Et comment réagit toute la famille? Léo Questen.
Ah oui, c'est une bonne question. Ça me fait rire parce que, enfin, si j'ose dire, ça me fait rire. Mais quand il y avait ces grandes manifestations contre le mariage pour tous...
Les Versaillais étaient en vent debout, d'ailleurs.
C'était l'épicentre.
C'était l'épicentre.
Voilà. Et puis, ce qui est très drôle, c'est que j'ai appris il y a peu de temps que des gens qui faisaient partie des plus virulents contre le mariage pour tous... Ben, ils ont un fils homosexuel et...
ils savent pas trop comment faire
voilà,
maintenant. Et ben, ça leur donne une bonne leçon dans la vie, Léo.
Oui, oui, puis... Alors, bon, alors ça, c'est mon point de vue à moi, puis j'en reviens au roman. Ben, on a un fils homosexuel, à la limite, il faudrait même plus le dire. So what? C'est un fils, c'est son fils. Il aime les garçons, bah il aime les garçons. Il y en a d'autres qui aiment les filles. Moi j'aime mon chien. et donc pour moi c'est un non problème. Mais évidemment dans cette famille bourgeoise, le père aurait voulu que son fils, d'ailleurs on appelle son fils, il aurait voulu qu'il reprenne les usines. Et le fils ne veut pas faire d'études supérieures alors qu'il est bon, que ça se passe bien à l'école. Il aurait voulu que son fils fasse une prépa comme lui. Hein, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui?
Mais ça, c'est un vrai problème, vous savez. Ce que vous dites, Léo, me rappelle une pièce de théâtre que j'avais vue quand, à l'époque, je faisais 11 ans de théâtre. On allait tout le temps au théâtre, vous l'imaginez bien. Et vous vous rappelez d'Henri de Monterland.
Oui.
Il avait écrit une pièce magnifique qui s'appelait « Fils de personne », où c'est le triptyque de la mère, le père et le fils. Et le problème, mes chers amis auditeurs, de l'amour, la différence entre un amour paternel et un amour maternel, c'est que l'amour maternel, la plupart du temps, quasiment tout le temps, est inconditionnel.
Enfin, il est supposé être.
Il est supposé être, en tout cas, hormis quelques mères tarées. Je veux dire, même si son fils est affleuri, qu'il est drogué et qu'il a tué 4 personnes, elle dira « moi, j'ai rien à dire, c'est mon fils ». Par contre, l'amour d'un père est conditionnel, notamment vis-à-vis d'un fils. Et dans « fils de personne », c'est ça. Il est déçu, il n'aime pas le profil du fils qu'il a. Et c'est bien ce que décrit Monterland dans « fils de personne ». Et c'est un peu ce qu'il joue là dans cette relation entre le père et le fils, n'est-ce pas ?
Complètement, complètement. Quand le fils, et puis alors on imagine le grand-père agrégé, qui lui-même est renversé. Et je ne connais plus l'histoire exactement, mais le grand-père, finalement, veut faire soigner son petit-fils, parce que pour lui, être homosexuel,
c'est une maladie. Vous savez, c'est vu encore dans certains pays, ça.
Et c'est vraiment la question, et c'est aussi une question centrale dans ce roman, d'accepter le point de vue de l'autre, et que le fils puisse nommer une sexualité, on va dire, différente de celle couramment admise, qui puisse sortir du carcan, ne serait-ce qu'en nommant son orientation sexuelle. Il y a quelque chose aussi qui parle de la libération. Et déjà, c'est la libération de la parole, qui n'est pas forcément très bien entendue, mais en tout cas, la parole est libérée. Il ose dire.
Et c'est déjà dans des familles comme ça, très bourgeoises, très corsetées, on dirait, oui, chers amis auditeurs, oui, oui, quelque chose qui fait vraiment du bien. C'est ça que vous avez voulu dire, Léo?
Mais oui, oui, et puis je me suis dit aussi que ça doit lui faire un bien fou de le dire, quitte évidemment à se heurter, mais d'une certaine manière, il se rapproche de sa maman, et peut-être qu'à travers l'événement terrible de son coming out par rapport à son père, ça le rapproche singulièrement de sa maman.
Oui, c'est vrai. On passe une page musicale et on va continuer à voir d'autres passages et, passionnants. Restez avec nous, on est sur Dynamique Radio.
Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je lumière jusqu'au jour. À la passion et jusqu'à la folie, je vais t'aimer, je vais t'aimer d'amour. À faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au septième ciel, à se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé l'être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer.
Michel Sardou, on fait un petit coucou à sa fille qui est notre grande amie. Et vous êtes toujours à, bah sur Dynamic Radio dans Pour Vivre Heureux, Vivons Coachés. Nous avons la chance d'avoir un romancier avec nous, Léo Questen, qui commet son nouveau livre, Le Manoir de Kerbrock, aux éditions Baudelaire. Donc nous en étions au coming out de Théo, hein, Léo. Et on va en venir maintenant à cette histoire donc, de Sandro. Qu'est-ce que vous pourriez dire là, d'Elvire et Sandro? C'est ça, non, Sandro? Qu'est-ce que c'est que ces personnages alors, hein? Il y a une scène torride, page 73, mais on va pas la déflorer, il faut la lire. On est digne des carrés, il faut un carré là.
Je me suis fait gronder par ma fille d'ailleurs.
Elle a trouvé trop hot.
Elle m'a dit, mais papa, comme si les parents n'avaient pas de vie sexuelle au fond.
Mais les parents, c'est comme les anges, ils n'ont pas de sexe.
Voilà. Donc, mais pour revenir sérieusement à l'histoire de ces deux personnages, en fait, le mari Foucault énerve tellement Héloïse. Il la dégrade tellement parce que finalement, donner un coup à sa femme, c'est immonde. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, elle va prendre l'air. Elle va courir dans la forêt qui est non loin de chez elle. Et puis, elle a une petite clairière qui n'est qu'à elle. Et puis, quand elle est couchée au milieu de la clairière pour faire ses mouvements de gym, elle voit le ciel, elle voit les arbres, elle est environnée par la nature. Et puis tout d'un coup, il y a une classe qui passe. Elle s'y attendait pas du tout parce qu'elle vient souvent dans cette clairière. Puis ce jour-là, il y a une classe qui passe comme un miracle versaillais de Dieu, finalement. Et tous les lycéens sont des lycéens de terminale, se permettent un certain nombre de coups de sifflet. Ils regardent la dame avec ses grands cheveux blonds. Ses jambes, enfin, vous connaissez les lycéens quand ils sont ensemble, surtout en terminale, ils ont des grands yeux pour cette belle femme. Le prof, lui, fait semblant de ne pas voir la femme, mais il n'a Dieu que pour elle. C'est un prof de gym qui présente bien, qui fait son petit coq, quoi. Les élèves passent. Après s'être bien moqué gentiment et exprimé leur désir, au fond, pour cette belle femme, c'est facile d'exprimer son désir quand on est en groupe. Et le prof, très civil, vient voir Héloïse et lui dit « Écoutez, madame, je suis désolé, je vais faire la morale à mes élèves. Dès que nous sommes revenus au lycée, je vous présente en leur nom mes excuses. Au revoir, madame. » Oh. Coup de dague, coup de cœur dans le cœur d'Héloïse. Mon Dieu, qu'il est beau.
Coup de foudre un peu.
Coup de foudre.
C'est un coup de foudre, Irène Cazenave.
Il y a vraiment quelque chose où, je dirais plus que c'est une réémergence du désir. c'est une réémergence du désir avec son... J'espère ne pas trop déflorer le livre, mais avec, il ne se passe plus rien avec son mari. Là, même les lycéens qui sont un peu, on va dire, taquins, grivois ou quoi,
normal,
ça, en tout cas, ouais. Elle-même, elle se trouve séduisante et elle se réapproprie sa séduction à travers le regard de ces
elle
jeunes hommes.
Elle se ressent femme.
Elle se ressent femme et aussi à travers le regard de cet homme. Donc il y a vraiment, je veux dire, beaucoup d'éros à ce moment-là où elle retrouve aussi le chemin du désir. Et elle retrouve, et en fait, elle se rend compte aussi que sa libido n'est pas le problème, que c'est son mari le problème.
Bien sûr, Léo Questen, ça vous parle ?
Oui, bah tout à fait. Bon, vous l'avez dit parfaitement bien. Elle est de nouveau femme.
Oui.
Elle est de nouveau femme. Elle ne se rend pas compte peut-être à quel point ça lui fait du bien, mais elle est à nouveau femme. Et d'ailleurs, elle va maintenant courir tout le temps. Pour arriver jusqu'à cette clairière où elle va faire sa gym. Et elle s'est dit, ah oui, alors il est venu tel jour, ce prof à telle heure, je vais donc m'arranger pour aller courir chaque jour où je l'ai rencontré. Alors son fol espoir, c'est de le rencontrer à nouveau avec sa classe et puis qu'il puisse réengager une petite conversation ou un petit coucou, ou on ne sait pas. Parce qu'au fond, son rêve d'amour, peut-être ne va pas se réaliser, elle ne sait pas. On rêve cela. Elle a vu cet homme, elle se dit il pourrait se passer quelque chose avec lui, mais comment ? Oui, est-ce qu'elle peut l'aborder comme
si
ça
on
dans
prend
sa
une grille très loi d'attraction qui est très à la mode depuis quelques décennies, l'être humain construit tout à la fois dans sa tête et la loi d'attraction dit que c'est on attire les choses, on les attire, on attire les rencontres. C'est pour ça qu'elle lui a dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, n'est-ce pas ?
Voilà.
Et que donc on attire ou on répulse, donc quelque part elle le construit. Irène Cazenave.
Et
ça.
Elle le dit elle-même d'ailleurs dans le roman. Il y a vraiment cette question où elle se dit si je l'ai regardé comme ça avec du désir, c'est qu'il y a une brèche qui est déjà réouverte en moi.
Oui. Et puis, je pense que comme elle est corsetée dans son milieu, cette brèche qui lui fait immensément plaisir, peut-être que le plaisir, justement, n'est pas loin, hein, ça lui pose quand même problème par rapport aux engagements qu'elle a pris vis-à-vis de son mari et de sa famille.
Alors ça devient surmoïque, on pourrait dire, Irène Cazenave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces femmes-là, quand elles ont du désir et qu'elles transgressent au sens même strict et clinique du terme, il y a cette dimension très corsetée des familles très bourgeoises. Ça se fait pas. Ça se fait pas, normalement, ça.
Il y a vraiment cette question de franchir une barrière et de la peur de l'inconnu. Et puis, il y a cette question aussi d'être pieds et poings liés, mais c'est pour ça que c'est aussi fondateur ce désir, parce que va venir avec son désir d'émancipation, parce que sinon elle perd tout, elle est quand même très dépendante de son mari.
Ah oui, c'est vrai, elle est très dépendante.
Terriblement, je ne saurais trop conseiller à toutes les femmes de travailler, c'est d'avoir clair. Leur indépendance, de vivre leur vie pour qu'elles aient aussi le soir quelque chose à raconter à leur famille. De la même façon que le mari vit sa vie et qu'il a quelque chose à raconter. Bon, dans la famille d'Héloïse de Kerembrun, qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah bah aujourd'hui j'ai fait ceci, aujourd'hui j'ai fait cela, c'est-à-dire quoi ? Nettoyer les vitres. D'ailleurs, dans sa maison avec des grandes baies vitrées, j'ai pris les vitres comme symbole, puisqu'un jour, à partir d'un jour, c'est, je pense, dès le début du roman, elle décide de plus les nettoyer. Elle a presque envie d'entourer avec du feutre les taches. Et regardez les taches. Je ne nettoie plus les taches. Je ne suis plus la boniche de tout le monde.
Ah bah écoutez, c'est passionnant, vraiment. Hein, il se passe vraiment beaucoup de choses, n'est-ce pas, Irène, dans ce roman. C'est vrai que les attitudes des personnages nous rappellent un petit peu ces personnages des sagas. Hein, ça pourrait presque être une série Netflix.
Complètement, oui, ça pourrait être une saga familiale, avec des rebondissements, avec beaucoup de résilience, et notamment des femmes, d'ailleurs.
Tant mieux, d'ailleurs.
Il y a vraiment cette notion de sororité dans ce roman qui est très, très présente. Et d'émancipation, mais d'émancipation quelque part de plusieurs personnages.
Et vous pensez, Léo Questen, qu'il pourrait y avoir une suite?
C'est une bonne question parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma fille m'a dit « Papa, écoute, Héloïse, elle est bien, tu veux pas écrire... »
Mais la fin n'est pas vraiment une fin.
Non.
Ça appelle de la suite.
Oui, alors c'est ce que me dit ma fille. Alors je ne sais pas quoi dire parce que là, bon, je suis très pris en ce moment... pour différentes raisons, puisque je suis également une formation dans un hôpital. Mais...
Ah oui, dites-en un peu plus aux auditeurs, parce qu'en fait, c'est passionnant. Vous êtes donc devenu quasiment aveugle,
oui.
Il y a une vingtaine d'années, complètement. Et vous avez envie de devenir quoi, alors, au 15-20 ?
Patient partenaire ou patient expert, je préfère.
Qu'est-ce que fait un patient partenaire expert ?
Eh bien, un patient partenaire, notamment à l'hôpital des 15-20, qui est l'hôpital pour les aveugles et les malvoyants, eh bien, là-bas, je serai non pas aidant, parce que ce n'est pas juste, je serai en accompagnement d'un certain nombre de patients qui n'osent pas poser les questions qu'il faut aux médecins, parce que les médecins n'ont pas le temps de développer, n'ont pas le temps, tellement il y a de gens qui viennent à l'hôpital des 15-20. Je serai là pour venir accompagner des personnes à qui on annonce qu'ils vont perdre la vue, ce qui n'est pas quand même un non-événement, même si pour moi, j'avoue que le fait de ne pas voir est un non-événement, je vous le promets.
Mais pendant combien d'années vous avez vu, Léo ?
Je vois encore 63 ans.
Jusqu'à 63 ans, vous aviez la vue. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez énormément d'images dans votre tête.
Oui, c'est vrai.
C'est qu'un aveugle de naissance, ça doit être très spécial quand même,
c'est tout autre chose.
C'est tout autre chose.
Ah, oui.
Lui, il n'a jamais rien vu.
Oui.
Vous êtes bourré, vous êtes un livre d'images.
Oui.
Je veux dire, après, quand on vous parle de machin, si on vous dit qu'Irène ressemble à, je sais pas, à Lorraine Bacall, une actrice américaine, on va vous dire, voilà, qu'Irène a des magnifiques yeux bleus, vous les voyez, les yeux bleus.
Ah,
on
tout à fait.
Une très belle
mais vous me faites rêver, là.
Non, mais c'est une très belle femme.
Oui, mais alors, pourquoi je suis assis si loin d'elle, alors?
Parce que c'est moi qui suis près d'elle.
Bon, bah alors.
Je plaisante, on est juste, on travaille ensemble, là, bon. Que personne se méprenne. Vraiment, non. C'est de l'humour. Vraiment de l'humour. Il n'y a rien entre nous, on n'est que de l'amitié.
Non, non.
Et c'est déjà très beau. Mais vous voyez un petit peu, ce que je veux dire, c'est que vous avez tout ça, vous l'avez. D'ailleurs, ça vous aide, vous connaissez la phrase de Proust, l'imagination, ce n'est que de la mémoire transformée. C'est une très jolie image pour parler de comment devenir romancier. On ne peut être romancier que si on travaille avec ses mémoires, au pluriel, inévitablement.
Et j'ai plus de mémoire, peut-être, que d'autres personnes de mon âge, parce que je compense le handicap avec la mémoire. Je compense le handicap avec plein de trucs pour trouver mon chemin. Je compense avec mes oreilles,
oui.
Puisque je traverse à l'ouïe.
Vous travaillez beaucoup à l'ouïe.
Oui. Donc, non, encore une fois, pour moi, c'est un non-événement. Je suis très heureux comme ça. À chaque période de ma vie, j'ai pu faire d'autres choses. Voilà. Et sur ce plan-là...
Irène, qu'en pensez-vous de ce qui est arrivé à Léo, son parcours de vie par rapport à ça ?
Moi, je trouve ça formidable et ça se développe dans d'autres domaines aussi, dans la santé mentale. D'ailleurs, la question où on appelle ça les pères aidants ou les patients experts, effectivement, où ça permet aussi de remettre de l'horizontalité dans les rapports. Parce que souvent, avec les médecins, il y a cette verticalité où le médecin est un sachant et puis le patient a un rôle un petit peu passif. Et de remettre de l'horizontalité, de la vitalité, j'ai envie de dire, dans ce rapport, et que les patients deviennent... Alors, moi, j'aime bien le terme de patient expert, où il y a une question où les personnes peuvent se réapproprier la façon qu'ils ont de vivre leurs troubles, la compréhension, et puis d'avoir quelqu'un qui dit, ben voilà, moi je l'ai vécu il y a quelques années et j'ai réussi à surmonter. C'est aussi un chemin, ça montre un chemin et ça montre qu'il est possible de bien le vivre.
Et surtout que ça casse des angoisses,
voilà,
ça permet d'apaiser l'esprit de quelqu'un.
Et il y a vraiment, il y a un modèle
de résilience.
Un modèle de
résilience. On peut dire que Léo, lui, qui nous dit, bon ben ça va, moi je suis résilient.
C'est un véritable modèle de résilience.
Vous êtes aux yeux de psychosociologues, de thérapeutes et autres dans Vivons Coachés, un modèle de résilience là-dessus.
Alors, je compléterai simplement ce que vous disiez très bien en disant aussi qu'un patient expert peut, avec tout le doigté et la diplomatie possible, peut aussi intervenir auprès des médecins. Car Voyez-vous, moi, je vous donne juste un exemple rapide. On doit me faire ce qu'on appelle des OCT, c'est-à-dire photographier la rétine. Bon, c'est des espèces de grosses lentilles qui font plusieurs centimètres de long. Eh bien, un jour, un médecin, puisque j'ai des yeux qui sont quand même un peu difficiles à photographier, me dit « Mais regardez le centre !» Oh, puis alors, ce médecin se met à me gronder, parce que je ne peux pas regarder le centre, je ne peux pas le fixer. Le centre, ça s'appelle la macula, et ma macula, elle est morte, puisque je n'ai que la vision périphérique. Comment voulez-vous que ce médecin qui en quelque sorte, m'engueule, il faut lui dire à ce médecin « Bah, vous ne réussissez pas à faire l'examen avec M. Costain, dont acte, c'est un cas difficile, avouez que c'est un cas difficile. » Mais je pense que ce médecin avait peur de le dire au chef de service.
C'est ça, et moi c'est pour ça que j'ai mis en place des formations qui s'appellent la méthode ARP, amélioration de la relation au patient, parce que les médecins, volins, nolins, et tout le personnel médical n'est pas formé
Ils
à la communication
formés,
interpersonnelle
oui.
et au relationnel. C'est tout le sens de mes méthodes que je crée et que je transmets depuis 28 ans à l'humanité. Et Dieu sait, l'autre jour, chers amis auditeurs, j'étais à Purpan devant 800 chirurgiens, et ben, au moment où j'ai fait ma conférence là-dessus, ils ont appelé ça la conférence décalée. Comme quoi en 2023, encore en France, on est au Moyen-Âge relationnel et la communication interpersonnel pour le personnel médical, c'est décalé. Chers amis auditeurs, c'est quand même assez révoltant.
On fait la même chose.
On fait la même chose.
Et pour remettre du positif, il y a quand même des médecins qui sont très ouverts à ces apprentissages-là des pairs.
Tant mieux, ouais. Les nouveaux. On arrive en fin d'émission, Léo. Il nous reste, c'est passionnant, on serait resté 2 heures avec vous. Il nous reste à dire en conclusion, d'abord, et on vous laissera le mot de la fin, bien entendu, que Le Manoir de Kerbrock, vous l'avez compris, chers amis auditeurs, est un roman qui nous a beaucoup plu, que l'on vous conseille d'aller lire aux éditions Baudelaire. Irène, un mot pour définir ce roman. Qu'est-ce qui vous a le plus touché?
J'ai envie de dire que c'est un roman d'émancipation. C'est un roman d'émancipation.
D'émancipation. Voilà. Et Léo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 prochaines années à venir?
Que je reste aussi en forme que je le suis aujourd'hui à 78 ans. Et puis quand même, pour terminer, par rapport à ce que vous m'avez posé comme question, est-ce que j'écris la suite ou pas? J'ai commencé un roman. Alors, est-ce que je vais aller au bout ou pas? Et je suis parti de cette fichue loi Leonetti sur la fin de vie.
Ah oui. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Vous reviendrez, Léo, hein, parler du nouveau. On peut vous dire vraiment qu'on a été ravis de vous avoir en ligne, avec nous, en direct, en réelle présence. Chers amis auditeurs, je sais que c'était une émission atypique parce que nous avions un auteur atypique. N'oubliez jamais que, comme le disait Borges, un livre, c'est une des rares promesses de bonheur tenues par la vie. Alors, soyez heureux avec Le Manoir de Kerbrock et on vous dit à la semaine prochaine.
Pour vivre heureux, vivons Cotier, une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.